Le jeudi 25 novembre 2010, le Tacti Collectif recevait Hassen Belmessous, journaliste et chercheur indépendant, autour de son livre « Opération banlieue » ou « Comment l'État prépare la guerre urbaine dans les cités françaises ». On écoute son intervention à la Bourse du Travail lors de la 7e édition du festival Origines Contrôlées.
Donc, j'ai invité Hassen Belmessous pour nous parler de son ouvrage Opération banlieue. L'année dernière, on avait eu déjà une série de rencontres sur la question de l'expression politique, l'émergence d'une expression politique dans les quartiers populaires. On avait aussi évoqué les questions d'opérations de renouvellement urbain. Alors, à Toulouse, on connaît bien ça, hein, le grand projet de ville. C'est vrai que ces opérations-là, depuis quelques années, quand on parle de politique de la ville en général, mais à Toulouse, c'est particulièrement le cas, on a surtout affaire à des opérations de renouvellement urbain, avec projets de démolition de barres d'immeubles. Bon, dans le cas de ces politiques-là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut les démolir, qu'il faut les démolir, et c'est comme ça qu'on va changer le visage du quartier et qu'on va changer l'atmosphère sur les quartiers. On a quand même du mal à comprendre, toujours bien comprendre, même quand on est investi, même quand on s'en préoccupe particulièrement, on a quand même bien souvent du mal à comprendre ce qui se joue derrière ces opérations-là. Quand on a eu vent de la parution de ce livre-là, ça nous a de suite intéressé. Le premier festival en 2004, mais en 2005, il y avait eu, c'était aux Arboulets. Dans les discussions qu'on avait eues, on était en 2005, les révoltes dans les quartiers de Toulouse, bon, ça fumait encore, c'était à peine la fin. Et dans les discussions, il y avait comme ça quelque chose qui avait été dit, l'armée peut intervenir dans les quartiers, il peut être question que l'armée... Bon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement... Enfin, je ne peux pas vous dire exactement comment ça a été dit, mais ce dont je me rappelle, c'est que ça avait été évoqué, et on avait... Bon, il y avait eu un échange autour de est-ce que c'est une rumeur, il ne faut pas céder à la théorie du complot, bon, voilà. Mais c'est des choses qui avaient, comme ça, été évoquées. Donc, Hassen Belmessous, il a fait l'enquête, il a travaillé une manière... sérieuse sur cet aspect des choses, comment l'État prépare la guerre urbaine dans les cités françaises.
D'abord, juste me présenter, c'est bien de savoir d'où on parle. Moi, je suis chercheur indépendant. Indépendant, ça veut dire que je ne suis pas rattaché, c'est voulu, à quelconque laboratoire du CNRS, même si sur certains contrats, ça m'est arrivé d'avoir un contrat abrité par le CNRS. Je suis producteur délégué à France Culture.
Juste pour vous préciser un peu les conditions dans lesquelles ce livre a été fait, il se trouve que depuis quelques mois, je travaille sur une recherche publique sur les effets des politiques publiques après les émeutes de l'automne 2005. J'ai fini des entretiens à la cité de Balzac. Heureusement qu'elle n'était pas encore la cité du mal au moment où je faisais mes entretiens. C'était du mal, c'était juste le documentaire contesté qui est passé sur Arte il y a quelques semaines. Et là, j'avais démarré à Grigny, donc bon, c'est deux territoires franciliens. Et là-dessus, au moment où je fais mes enquêtes, un jour, on me rapporte une anecdote, pas loin d'ici. Je peux le dire parce que quand je suis à Paris ou ailleurs, je dis une ville du Sud. Après tout, il faut toujours préciser les choses. Pas loin d'ici, un jour, une commission de rénovation urbaine autour dans laquelle se trouvaient les acteurs habituels, hein, urbanistes, architectes, élus locaux, etc., s'étaient réunis de façon à discuter, à valider plutôt même un programme. Et dans ce programme, il était question d'une démolition. Les architectes, les urbanistes avaient pensé une démolition, parce que dans leur projet, cette démolition-là, finalement, elle avait un sens. Et à ce moment-là, le représentant du ministère de l'Intérieur a estimé que cette démolition-là était contre-productive. En gros, si d'aventure la police qui travaillait des stratégies d'anticipation des modes urbaines, se trouver face à cette démolition-là et pas à une démolition à laquelle eux se tenaient, les choses risquaient d'être compliquées pour elles. En gros, il fallait reconfigurer le quartier selon la norme policière. Et évidemment, le ministère de l'Intérieur l'a emporté. Il l'a emporté pour une raison simple. Depuis 2003, et la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine, il n'y a plus de politique de la ville. Elle est morte, mais bon, ça, on en reviendra plus tard. Et sans l'État, l'ANRU ayant recentralisé, renationalisé la politique de la ville, les collectivités locales, en gros, ne peuvent absolument pas faire ce qu'elles souhaitent. Donc, au départ, c'était cette anecdote-là. Ça m'avait interpellé. D'abord, le témoin était indiscutable. Et surtout, ce qui m'avait interrogé, c'était cet envers du décor-là. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler les choses. En 2003, lorsque Jean-Louis Borloo présente la rénovation urbaine, c'est présenté comme une sorte de, finalement, de renouveau de la politique de la ville. Hein. Le constat qui était fait, c'est 75-2003, autant d'années d'échec de la politique de la ville. Et cette idée que finalement, d'une part, ces territoires-là ne répondaient plus finalement à un idéal de vivre ensemble et qu'il y avait besoin d'un renouveau urbain. En gros, il fallait une sorte de renouveau démocratique dans ces territoires. Le problème, c'est qu'au cours de cette enquête, je me suis rendu compte que l'envers du décor, il n'était peut-être pas aussi idyllique. En gros, qu'est-ce que c'est que la rénovation urbaine ? C'est deux piliers. Le premier, il est sécuritaire. Et le second, c'est ce que moi j'appelle la guerre sociale. Il est sécuritaire au sens où, en commençant des entretiens avec c'est surtout en Seine-Saint-Denis que j'ai fait ça, mais c'est pareil partout. Tous les projets de rénovation urbaine, aujourd'hui, sont validés par le ministère de l'Intérieur. C'est un leurre, c'est un mythe que d'imaginer que ce qui se développe dans les grands ensembles, ça participe d'une vitalité, d'une nouvelle dynamique urbaine. Qu'est-ce que disent les responsables des différentes DDSP, Direction départementale des sécurités publiques? En gros, la police n'a pas été écoutée. La police a été minorée dans les années 60, les années 70, lorsque les grands ensembles ont été construits. Et qu'aujourd'hui, du moins, que depuis, on a payé, la police paye finalement les dysfonctionnements, les désordres urbains. Et que la police étant, se pensant finalement, comme étant aujourd'hui le dernier acteur qui intervient dans ces territoires, le garant de la vie de la cité, cette police-là, met en demeure tous ceux qui interviennent de façon à ce que rien ne peut être fait sans son aval. C'est ça qui est révélé. Et dans le livre, je cite des gens qui s'expriment ouvertement et qui expliquent qu'en 2007, lorsqu'ils étaient, ils se retrouvaient dans ces commissions de rénovation urbaine, ils étaient regardés de manière suspicieuse. Et aujourd'hui, ils sont attendus et ils sont même espérés, que ce soit par les bailleurs, les élus locaux, tous les élus locaux, que ce soit des élus de gauche, j'englobe la gauche de gouvernement comme la gauche extrême, du moins de sensibilité extrême, et évidemment le personnel politique de droite. Donc, le livre, voilà ce qu'il développe. Cette idée qu'aujourd'hui, la police se pense comme le garant de la vie de la cité. En gros, sans la police, il ne peut pas y avoir de cohésion sociale. Et là, on est dans un basculement totalement régressif sur le plan de la vie démocratique. J'étais alerté sur ce qui se passait à Saint-Astier. Alors Saint-Astier, c'est pas loin, c'est en Dordogne. Et à Saint-Astier se trouve une sorte de ville qui sert de formation à la gendarmerie mobile. Les gendarmes mobiles, ce sont des militaires. Le village a été créé après 68, lorsque l'État a fait le constat que la police a été débordée et qu'il fallait former il fallait apporter une nouvelle formation à la gendarmerie mobile de façon à faire du maintien de l'ordre qui soit efficace. À partir des années 90, les gendarmes mobiles, finalement, au regard de ce qui se développait dans les zones périurbaines, ont commencé à travailler sur les violences urbaines. De sorte qu'aujourd'hui, ils sont devenus de vrais professionnels. La pacification, entre guillemets, du territoire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Saint-Astier, c'est une ville artificielle. Il faut imaginer des rues, mais des choses qui sont réelles, mais qui reproduit une sorte de copier-coller de ce qu'on peut imaginer dans n'importe quel grand ensemble en France. Des immeubles, la place, des rues larges, des rues serrées, des commerces, etc. Et toutes les deux années, les 121 ou 123 escadrons de gendarmerie mobile français passent là-bas pendant 14 jours pour faire de la formation et pour s'initier à la guérilla urbaine. Tous les jours, les gendarmes mobiles reçoivent une sorte de rapport lorsqu'il y a eu une émeute ici et là, dans lesquelles sont détaillées, décrites les choses telles qu'elles se sont passées, et surtout ce qui a fonctionné en termes de maintien de l'ordre et ce qui n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gendarmes mobiles? Ils travaillent sur des stratégies, comment intervenir, et également ils expérimentent de nouvelles technologies. Et dans le livre, je révèle une information qui m'a été donnée. Il y a quelques mois, l'armée israélienne a proposé un appareil. C'était l'armée israélienne. Propose à la DGA, la Délégation Générale à l'Armement, donc ministère de la Défense, un appareil qui est un canon à son, qui s'appelle le chauffard. Le chauffard, qu'est-ce que c'est? Ça a été utilisé dans les émeutes contre les manifestants anti-G8 au Canada. Ça a été également, il me semble, utilisé à Gênes en 2001. Le chauffard, c'est l'équivalent d'un avion de chasse qui vous passe au-dessus de la tête. Ça a été décrit comme ça dans la note confidentielle qui m'a été confiée. Les gendarmes mobiles ont refusé d'utiliser cet instrument-là. Parce que d'abord, quand ils testent un équipement, ils le testent sur eux-mêmes. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand ils s'initient à la guérilla urbaine, il y a ceux qui jouent les gendarmes mobiles, mais qui jouent réellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se blessent à l'occasion de ces exercices, et vous avez des gendarmes qui jouent aux émeutiers. Jeans, baskets, keffiers, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'État n'est plus dans une perspective de maintien de l'ordre, mais il est dans une perspective d'expérimentation à travers des manœuvres à la guerre urbaine. Là-dessus, voilà, des gens, parce que les gendarmes estiment que le rapprochement pour les gendarmeries est inquiétant, me donnent un document. C'est un rapport qui a été commandité par la délégation de la prospective et de la stratégie. En 2006, quelques mois après les émeutes, il y a une société qui s'appelle Eurocrise, qui était fondée par un général à la retraite 2 étoiles. Et ce général, Lou Francard, a gagné un appel d'offres. La commande, c'était celle-là. Est-ce qu'on peut imaginer une intervention de l'armée dans les banlieues françaises? 2006. Un journaliste me dit, mais est-ce que vous êtes... Je ne pensais pas que c'est de la conspiration. Je ne pensais pas que... Non, là, on est sur des choses qui sont réelles, qui sont fondées. Mais il ne faut pas tromper l'opinion. Donc, les gendarmes, finalement, me mettant sur cette voie-là, je m'intéresse à ce qui se passe à Sissonne. Sissonne, c'est un champ de manœuvre, le plus grand champ de manœuvre à la guerre urbaine, qui se trouve au nord de Paris, dans l'Aisne. Il y a plusieurs villes artificielles. Et à Sissonne, l'armée de terre travaille sur des stratégies d'intervention, mais elles sur le territoire extérieur, hein, ce qu'on appelle les RETEX, hein, les retours d'expérience, Irak, Afghanistan, Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a interpellé, c'est ce qui se développe là-bas. D'une part, depuis novembre 2009, les gendarmes mobiles forment l'armée de terre à ce qu'on appelle le contrôle des foules. Alors, le contrôle des foules, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de neutralisation d'un individu dans une population civile. En gros, c'est comment on imagine une bombe humaine ou je ne sais qui, finalement, comment faire en sorte que cet individu-là, qui s'est glissé dans la population civile et qui est dangereux, puisse être neutralisé. Ça, c'est une technique de police, de gendarmerie. Alors, C'est présenté, du moins cette initiative-là, elle est présentée comme une manière de former des militaires à cette technique-là de façon à l'utiliser à Kaboul, par exemple, ce qui est vrai, ce qui est réel. Le problème, et là les officiers qui s'expriment ouvertement dans le livre, au risque finalement d'avoir leur carrière qui soit brisée. Il faut voir ce qui t'est arrivé à un gendarme qui est également sociologue, qui s'appelle Jean-Hugues Matéli. Qu'est-ce que les officiers de l'armée de terre disent ? On nous initie au contrôle des foules. Ça signifie que qu'est-ce qui pourrait finalement empêcher le politique de faire en sorte que, à la faveur d'émeutes urbaines, ce contrôle des foules-là, on ne nous demande pas de l'effectuer à la Courneuve ou à Bagatelle pour régionaliser le propos. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, il y a comme ça des indices concordants qui montrent que on est dans une situation de guerre urbaine larvée, de guerre civile larvée. Alors, il y a un autre volet. Je vais un peu vite, hein, mais c'est toujours un peu délicat lorsqu'on présente un livre que les gens n'ont pas lu. Dans l'idée, c'est que, d'abord, d'une part, interpeller, je suis éditeur par ailleurs, donc c'est comment on interpelle, aussi que chacun se sente interpellé, et ensuite prolonger le propos par la lecture. Donc voilà, je suis assez... Je schématise un peu. Et il y a un autre volet de cette guerre urbaine que moi j'appelle la guerre sociale. La guerre urbaine, dont on l'a vu à travers l'implication de la police, hein, qui finalement devient un acteur majeur de la rénovation urbaine, et elle s'est amplifiée à travers l'opération Espoir banlieue. Espoir banlieue, c'est intéressant à noter, parce que depuis l'opération Habitat et Vie sociale en 1975 jusqu'à 2000, on était sur des procédures urbaines, DSQ, donc le développement social des quartiers, les contrats de ville, etc. Il y en a qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas, mais peu importe. Les sigles étaient administratifs, mais il y avait quand même implicitement cette idée, finalement, de remettre à niveau. Export banlieue modifie les choses totalement. C'est-à-dire que, dans les années 80, on disait, rappelez-vous le discours de Michel Rocard, entre autres son discours de politique générale en 88, l'architecture, si ça ne va pas dans ces quartiers, c'est que l'architecture est criminogène. En 2000, c'est fini. Et plus l'architecture qui est criminogène, ce sont ses habitants, une partie de ses habitants. C'est ça dont souffrent les banlieues. Le discours de Nicolas Sarkozy, quand j'ai beaucoup relu hein, le discours de campagne, c'est celui-là. La France crève de ses banlieues. Si la France va mal, c'est parce que les banlieues la font crever. C'est une sorte d'ennemi intérieur. Et c'est cet ennemi intérieur qui l'arrange. Donc, espoir banlieue, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a plus cette idée qu'il faut injecter du droit commun dans ces territoires-là. Après, on pourra dire la politique de la ville a marché, pas marché. Moi-même, j'ai écrit que c'était plutôt, à certains moments, une entreprise socio-humanitaire qu'une entreprise politique. Mais bon, il y avait quand même cette idée que ces territoires manquaient d'égalité. Il fallait remettre à niveau. On l'a vu à travers, entre autres, la création des zones d'éducation prioritaires. Et c'est pas mon Dieu, c'est fini. C'est terminé. C'est cette idée que pour s'en sortir, il faut en vouloir. C'est cette vision néolibérale hein, du territoire, à savoir, il faut être exemplaire. Si l'on n'est pas exemplaire, finalement, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. Et moi, je me souviens, je décris dans le livre, il se trouve que le hasard fait que j'étais à Vaux-en-Velin le jour où Fadela Mara avait présenté les grandes lignes d'Espoir banlieue. C'était vraiment... assez impressionnant, hein. Serge Moiti qui était là, qui était une sorte de guest star qui présentait les choses, ex de la banlieue, parce que voilà, il y avait comme ça une sorte d'aéropage de gens, et on disait aux individus, voilà, si vous êtes dans la salle, il n'en tient qu'à vous d'être sur la scène. Et ça, c'est cynique et c'est diabolique. C'est cynique parce que ça veut dire que on dépolitise une problématique sociale. Et finalement, on postule cette idée que seules les stratégies individuelles sont probantes, elles sont opérantes. Donc, celui qui ne s'en sort pas, eh ben tant pis pour lui. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a dit X fois dans ses discours de campagne, je vous invite à regarder s'ils sont encore sur Internet, le travailleur français a suffisamment travaillé en s'inclinant pour la politique de la ville, maintenant c'est terminé. Donc l'exemplarité, c'est ça. C'est ce casting royal de 2007, Fadela, Rama, Rachida, peut-être 3, 4, je ne sais plus, aujourd'hui Jeannette, jamais de garçon. Ça aussi, c'est pas innocent. On neutralise la question politique et, d'une part, on oriente sur le plan sécuritaire et, d'autre part, finalement, on dit aux individus « il n'en tient qu'à vous ». C'est pour ça que je dis qu'il n'y a plus de politique de la ville. On n'est plus dans le droit commun, on est dans du collectif individualiste. Et quand je dis que c'est cynique, c'est cynique pour une raison simple, c'est-à-dire que tous ceux qui contestent ce développement-là sont neutralisés. Quand je décris ce qui s'était passé à Rouen, c'est intéressant, parce qu'il y avait une sorte de village associatif, mais je l'ai vu après à Nice, c'était pareil, n'étaient acteurs de ce village associatif que les associations qui sont, allez, dans cette, comme ça, orientation méritocratique, ou finalement sociale mais compassionnelle, à travers le sport, à travers l'aide aux devoirs, etc. Pardon. Toutes les associations qui s'impliquent dans la vie politique, c'est-à-dire celles qui poussent à l'inscription sur les listes électorales, celles qui ont un contre-discours politique, ont été exclues. Et Fadela Amara, interrogée par le Bondy Blog, répond que ces gens-là, finalement, sont jaloux du succès de Ni Pute Ni Soumise. Moi, je travaille sur la ville, je ne travaille pas sur les banlieues. Je ne suis pas un spécialiste de la banlieue. Ce livre, c'est qu'un livre politique. Mais en 15 ans, je n'ai jamais rencontré un représentant de Ni Pute Ni Soumise ni d'SOS Racisme dans tous les quartiers d'habitat social où je suis allé. En 15 ans. Mais je ne fais pas le procès de ces gens-là, de l'association. Je fais le procès des stratégies des politiques. Donc, elle dit, Fadela Amara, dans l'entretien, d'abord, ces associations-là jalousent le succès de Ni Pute Ni Soumise. Implicitement, elle fait le procès du communautarisme. Et in fine, c'est terrible, on ne va pas inviter des associations terroristes. Là, vous êtes figé. Il n'y a plus rien à dire. C'est l'accusation extrême. Le terrorisme. On vous accuse de terrorisme. Vous êtes complètement, annihilé de l'espace public. Votre voix ne peut plus parler. Voilà. Vous êtes contre nous, vous êtes terroriste. Je vais... Voilà, c'est pas caricatural ce que je dis. Pour finir, il y a deux points que j'aimerais quand même évoquer. La gauche sécuritaire et ce que moi j'appelle, il y a un bout quand même aussi, ce sont des officiers de l'armée militaire qui m'ont mis sur cette piste-là, la bataille d'Alger. À chaque fois que j'ai été invité dans des médias, c'est très difficile entre nous de défendre ce livre, très très difficile. Regardez Libé, regardez Le Marianne, regardez Nouvel Obs. Je peux citer parce que je me sens très tranquille par rapport à ça. Le livre soit défendu par l'extrême gauche, soit conseillé, c'est dramatique pour moi, par l'extrême droite. Parce que qui voit des motifs d'espoir. Vous vous rendez compte, l'armée dans les banlieues, enfin. C'est une radio, entre autres, en Île-de-France qui s'appelle Radio Courtoisie. Regardez un site internet qui s'appelle Français de souche. C'est très... Mais bon, les choses aujourd'hui, quand on parle de guerre civile l'armée, c'est ça. Donc la bataille d'Alger. À Sissonne, donc ce lieu que je décrivais très succinctement, l'armée de terre, depuis peu, fait le retexte de la bataille d'Alger, le retour d'expérience. En gros, au départ, les militaires français ont prétexté du fait que les Américains ont interrogé ce qui s'est passé à la bataille d'Alger, juste pour mémoire, 1957, Massue, et finalement les mains libres, les coups des franges, pour faire cette opération de police. C'était considéré comme un succès, mais comme un désastre au sens politique. Donc pendant très longtemps, c'était un tabou dans l'armée française, si ce n'est que depuis ces derniers temps, les militaires qui ont participé à cette opération de près ou de loin, qui étaient aux commandes de près ou de loin, ne sont plus, et la jeune génération, me disait le colonel Durieux, un type très épatant, je veux dire, un type qui a fait une thèse mais brillante, qui est à Kaboul, mais un vrai républicain loyal, qui dit, putain, les militaires que j'ai, malgré toutes mes précautions, si demain on leur dit qu'il faut aller à la Courneuve, faut sauter à la Courneuve, eh ben ils sauteront. C'est dans le livre, ça. Donc, depuis quelques mois, l'armée de terre fait son propre rétexte de la bataille d'Alger. Avec aussi cette manière d'interroger aussi ce qui s'est passé, cet état d'exception qui a eu lieu en 2005 à la faveur du couvre-feu pendant les émeutes. Et surtout, alors c'est vrai que quand on n'est pas dans le lieu, c'est difficile. Il faut vous imaginer ce que c'était que Villiers-le-Bel en 2007. Il faut vous imaginer ce que c'est qu'une ville en état de guerre. C'est indescriptible. Comme est indescriptible ce qui s'est passé à Lyon en octobre dernier. On a parlé des casseurs. J'ai fait un débat invité par les indigènes de la République la semaine dernière. Des gens m'ont raconté des ponts fermés, des gens fouillés au corps, plaqués contre le mur. Quelqu'un me disait... c'est pas non plus un fantaisiste ou un uluberlu de l'extrême gauche pour lorsqu'on veut encore une fois caricaturer son adversaire. Il me disait, les gens étaient fouillés, j'ai vécu ça, c'était la guerre d'Algérie, la bataille d'Alger. Les gens passaient devant, oh, ils ont que ce qu'ils méritent. C'était à Lyon, ça aurait pu se passer ailleurs. Encore une fois, et les médias ayant présenté ça comme étant une sorte d'opération de sécurisation de l'espace public, mais dans les faits, quand on décrit les faits, allez sur un site qui s'appelle Rebellion, R-E-B-E-L-Y-O-N, il y a des gens qui commencent à témoigner, et ces témoignages-là montrent que on n'est plus dans le mythe, on n'est pas dans le leurre, on est dans des choses gravissimes. Au Mureau, souvent, c'est l'adjointe au maire Marianne Conteau que je cite dans le livre, raconte que à certains moments, vous avez un hélicoptère qui vole au-dessus des grands ensembles, avec un projecteur qui illumine tout le toit, hein, c'est l'équivalent, ça éclaire l'équivalent d'un stade de football, hein, pour imager journalistiquement les choses. En pleine nuit, c'est le jour. J'essaie. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui en France. Et quand je dis qu'on a dépolitisé finalement pour criminaliser cette problématique-là, je trouve ça très inquiétant. Et le militaire, quand il me dit « intéressez-vous à la bataille d'Alger », ça signifie que, finalement, est-ce que cette bataille-là, elle pourrait pas être décrite et mise en perspective à la faveur des événements actuels? D'autant que, j'ai découvert au cours de cette enquête, à Lyon, les bailleurs sociaux sont créés dans un groupement. Et ils ont engagé une société de sécurité. Des gros bailleurs, hein, très très gros bailleurs. Et donc cette société de sécurité fait appel à une autre société. C'est très compliqué, mais en gros, tous les soirs, vous avez ce qu'ils appellent des gilets rouges, des arabes et des noirs, c'est comme ça, qui sont dans certaines allées, dans certains quartiers, pour s'assurer que le règlement intérieur du bailleur est respecté. Mais quand on passe une soirée avec eux, on se rend compte que finalement... À la limite, pourquoi pas, il y a un règlement intérieur, tout le monde doit le respecter, je veux dire, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ce que moi j'appelle une police ethnicisée. Ce que j'ai observé, ce sont des gens qui, lorsque un groupe de jeunes, par exemple, peu importe, ne respecte pas le règlement intérieur, vous avez ces agents-là qui téléphonent donc au responsable, et le responsable est en contact avec la police nationale, et il lui donne des détails. Et l'autre décide oui ou non, on y va, ou pas. C'est-à-dire que le boulot de la police, hein, au sens grec, je veux dire, on est dans la cité, dans la vie de la cité, on est dans la cité, là, hein, aller au contact des gens, ce boulot ne se fait plus. La police aujourd'hui, je disais au départ, dans mon propos, que c'était une police de combat, une police qui s'imagine, qui se prétend comme étant l'agent. On est les derniers à être sur le quartier, ça vous l'avez entendu, vous l'avez lu partout. Si on n'est plus là, rendez-vous compte. Évidemment, mais tout le monde a besoin de police. La police est un des acteurs, finalement, de la vie de la cité. Si ce n'est que la police dans ces territoires-là, c'est une police qui ne va plus au contact des habitants, c'est une police qui ne veut plus salir les mains. C'est une police qui est au front. Ce développement, je le trouve extrêmement inquiétant en termes de vitalité démocratique, qui sont dans certaines allées, dans certains quartiers, pour s'assurer que le règlement intérieur du bailleur est respecté. Mais quand on passe une soirée avec eux, on se rend compte que, finalement, à la limite, pourquoi pas, il y a un règlement intérieur, tout le monde doit le respecter, je veux dire, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ce que moi j'appelle une police ethnicisée. Ce que j'ai observé, ce sont des gens qui, lorsque un groupe de jeunes, par exemple, peu importe, ne respecte pas le règlement intérieur, vous avez ces agents-là qui téléphonent donc au responsable, et le responsable est en contact avec la police nationale, et il lui donne